VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toute le monde. Aujourd'hui, édition du mardi 28 mars 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Nous commençons avec les titres.
En République démocratique du Congo, les évêques catholiques ont annoncé hier soir l'échec des pourparlers politiques et la fin de leurs bons offices.
Au Bénin, démission surprise du ministre de la Défense en plein débat sur une réforme de la Constitution proposée par le président Patrice Talon.
Ici aux États-Unis, Jared Kushner, gendre et principal conseiller du président Donald Trump, accepte de comparaître devant la commission sénatoriale du renseignement.
Le Pentagone étudie plus de 700 vidéos de frappes aériennes de la coalition anti-djihadiste à Mossoul, en Irak, après la mort d'une centaine de civils.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, échec des discussions politiques. Après 3 mois de pourparlers entre la majorité, l'opposition et la société civile, et malgré la signature d'un accord le 31 décembre dernier pour une gestion consensuelle de la transition, le rassemblement et le camp du président Kabila n'ont pas pu s'accorder sur les modalités de l'application de cet accord. Et le blocage persistant autour de la désignation du Premier ministre et du président du Conseil national de suivi de l'accord a contraint les évêques catholiques à annoncer hier soir l'échec des pourparlers et la fin de leurs bons offices. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans une plénière débutée peu avant 23h heure de Kinshasa, les évêques ont constaté l'échec des négociations. Le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, le seul à prendre la parole, a rappelé le parcours de ces discussions engagées depuis le 8 décembre dernier, ainsi que les efforts des uns et des autres pour aboutir à l'accord de la Saint-Sylvestre signé le 31 décembre 2016, avant d'évoquer l'impasse autour de la désignation du Premier ministre et la présidence du Conseil national de suivi de l'accord après la mort d'Étienne Tshisekedi. Les évêques ont souligné un manque de bonne volonté politique de la part des délégués et ils en appellent à l'implication du président Kabila pour la poursuite des discussions tout en demandant à la population de rester vigilante. En conclusion, la Conférence épiscopale nationale du Congo déclare qu'elle cesse ce 27 mars 2017 sa mission des bons offices tout en précisant qu'elle reste disponible pour faire avancer cet accord. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, la police a accusé hier une rébellion d'avoir massacré et enterré dans une fosse commune 39 de ses agents au Kasaï, région du centre, en proie à la violence depuis plus de 6 mois. Selon le colonel Pierre Rombo Mouanamputu, porte-parole de la police, il serait tombé vendredi matin dans une embuscade tendue par des miliciens Kamuina Sapu à Kamuesha, à environ 75 km au nord-est de Tshikapa, capitale de la province du Kasaï.
Au Bénin, le ministre de la Défense a annoncé hier sa démission au milieu d'un débat houleux sur une réforme de la Constitution proposée par le président Patrice Talon. Précision de Solange Nyamulisa.
Le ministre Candide Armand-Marie Azanahi a écrit sur sa page Facebook qu'il a remis sa lettre de démission à cause des derniers développements politiques dans son pays. L'annonce a créé la surprise dans un contexte tendu. Le président Patrice Talon veut une réforme de la Constitution. Son projet prévoit notamment un mandat présidentiel unique, actuellement de 6 ans. C'était une promesse de campagne, mais la mesure suscite une vive polémique. Toute modification de la Constitution doit être approuvée par référendum ou par l'écrasante majorité des parlementaires. Déjà vendredi, le président béninois a subi un premier revers. Les 83 députés ont rejeté le caractère urgent du vote sur ce projet de révision de la Constitution. Hier lundi, l'Union nationale des magistrats du Bénin a démarré une série d'actions pour dire non à toute retouche de la loi fondamentale du pays.
En Guinée, la Cour suprême a cassé hier la condamnation à perpétuité de 2 hauts gradés guinéens accusé de tentative d'assassinat du président Alpha Condé dont le domicile avait été attaqué en 2011. Selon l'AFP, la haute cette juridiction a cassé le jugement de la cour d'assises de Conakry du 13 juillet 2013 qui avait condamné à perpétuité le commandant Alpha Oumar Diallo, présenté comme le cerveau de l'attaque, et l'officier Jean Guilavogui, 8 autres accusés écopant de 2 à 15 ans de prison.
En Tunisie, une coalition d'associations a appelé hier au retrait d'une circulaire interdisant le mariage des Tunisiennes musulmanes avec des non-musulmans. Elle dénonce ce qu'elles appellent une aberration qui viole la liberté de conscience inscrite dans la Constitution de 2014. Anastasie Tudiech.
Une soixantaine d'associations ont signé l'appel à retirer cette circulaire datant de 1973. Pour le collectif, le texte remet en cause un droit fondamental pour tout être humain, le choix libre du conjoint. Actuellement, pour le mariage de toute Tunisienne considérée comme musulmane et désireuse d'épouser un non-musulman, un certificat de conversion du futur époux est exigé. Et si elle se marie à l'étranger avec un non-musulman sans ce papier, son mariage ne peut être enregistré en Tunisie. Les hommes tunisiens peuvent, eux, par contre, se marier avec une non-musulmane. Le collectif espère le retrait du texte d'ici novembre 2017. Pour cela, il entend sensibiliser l'opinion publique et rencontrer les ministres de la Justice, de l'Intérieur, ainsi que le chef du gouvernement. Un colloque est aussi prévu.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, l'administration Trump menace de priver les villes ou juridictions dites sanctuaires de fonds fédéraux si elles refusent d'appliquer les lois sur l'immigration en continuant d'abriter illégalement des immigrés clandestins. Jacques Aristide.
Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche hier, Jeff Sessions, ministre américain de la Justice, a exhorté les États et les juridictions locales à se conformer aux lois fédérales et d'affirmer que le principal critère concernant les subventions qui leur sont octroyées par le biais du département de la Justice serait avant tout le respect des lois sur l'immigration. Il a également menacé de reprendre les fonds déjà déboursés. L'administration Obama avait déjà mené une politique similaire. Pour Sessions, en ne coopérant pas avec les services de l'immigration, ces villes laissent des clandestins potentiellement dangereux en liberté. Son département prévoit d'accorder plus de 4,1 milliards de dollars au cours du présent exercice financier. Donald Trump avait fait des villes sanctuaires l'un de ses thèmes de campagne, en affirmant qu'il allait leur retirer tout financement fédéral. Mais des villes comme New York, Chicago et Los Angeles évoquent un précédent juridique en leur faveur. Le maire de New York de souligner que ces coupes pourraient avoir l'effet inverse de celui recherché, car selon lui, les services de police seraient les premières victimes.
Jared Kushner, gendre et principal conseiller du président Donald Trump, a accepté de répondre aux questions de la commission sénatoriale du renseignement qui enquête sur les allégations d'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Selon le New York Times, la commission veut en savoir plus sur deux réunions que M. Kushner a eues en décembre avec Sergei Kislyak, l'ambassadeur russe à Washington. Il y a aussi une réunion qui n'avait pas été signalée auparavant avec le patron d'une banque d'État russe frappée par des sanctions américaines après l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014. Toutes ces réunions ont été qualifiées de normales dans le cadre de la transition par la Maison-Blanche.
Le Pentagone étudie plus de 700 vidéos de 10 jours de frappes américaines aériennes de la coalition anti-groupe État islamique dans l'ouest de Mossoul en Irak. Il cherche à déterminer la crédibilité des informations selon lesquelles ces frappes ont coûté la vie à une centaine de civils. Le Pentagone a qualifié ces pertes civiles de terribles tragédies et le secrétaire à la Défense, Jim Mattis, a souligné qu'il n'y a dans le monde aucune force militaire qui se soit révélée plus sensible aux pertes civiles que celle des États-Unis. L'armée irakienne a dit pour sa part détenir de nouvelles preuves montrant que les combattants du groupe État islamique avaient piégé le site avec des explosifs.
En Europe, la sortie officielle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne est proche. Demain, Londres va activer l'article 50 du traité de Lisbonne qui lancera officiellement le processus de sortie 9 mois après le référendum du 23 juin 2016 où les Britanniques ont voté à près de 52% pour quitter l'UE. Claire Morin-Gibourg.
C'est mercredi que Tim Barrow, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Bruxelles, va remettre au Conseil européen la lettre officielle qui marquera le début de 2 ans de négociations. Au même moment, Theresa May annoncera aux députés le lancement de la procédure. Le lendemain, le gouvernement britannique publiera le Great Rebuild Bill, c'est-à-dire le livre blanc du projet de loi, baptisé Grande Abrogation. Il est destiné à abolir une loi de 1972 qui avait incorporé la législation européenne au droit britannique. Sur le plan économique, cela risque d'être plus compliqué. Les négociations pourraient ne pas aboutir et laisser le pays sans accord. La Grande-Bretagne sera alors exposée aux règles de base de l'Organisation mondiale du commerce, comprenant notamment des barrières douanières. La Fédération de l'industrie britannique a jugé ce scénario inacceptable alors que l'Union européenne représente la moitié des échanges britanniques. Les situations en Écosse et en Irlande du Nord sont encore plus problématiques. Le Parlement écossais devrait voter aujourd'hui une motion l'autorisant à réclamer un nouveau référendum pour l'indépendance. En Irlande du Nord, les républicains du Sinn Féin et les unionistes ont échoué à trouver un accord sur une coalition gouvernementale, ce qui pourrait aboutir à un retour au « direct rule », c'est-à-dire l'administration directe de la province par Londres.
Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho, Morgane Guiriec.
Le groupe médical ivoirien Novamed a annoncé son intention d'investir 18 milliards de francs CFA pour faire d'Abidjan une destination de tourisme médical et un hub de la santé en Afrique de l'Ouest. L'objectif est notamment d'étendre son réseau de cliniques dans le pays et d'ouvrir bientôt un centre de radiologie en vue de traiter le cancer. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ou CEDEAO, examine la structuration en partenariat public-privé et les mécanismes de garantie des projets du programme communautaire de développement. D'après Abidjan.net, de tels projets étaient au centre d'une rencontre qui s'est récemment tenue au Togo. Il est question notamment de la construction de l'autoroute Lagos-Dakar. Et au Maghreb, Open Classrooms signe des accords avec les agences pour l'emploi. Cette société française offre des formations et diplômes reconnus par les pouvoirs publics en France et en Europe, tout particulièrement dans les métiers du numérique.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite des matchs amicaux sur le continent.
La Mauritanie affrontait le Congo à Nouakchott hier soir et les Diables Rouges se sont inclinés 2-1 face au Morabitoun. À Paris, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont fait match nul un partout, mais le match a dû être arrêté pour envahissement de terrain.
Éliminatoire pour le Mondial 2018, l'Iran se rapproche.
Oui, dans le groupe A, les Iraniens ont 4 longueurs d'avance sur la Corée du Sud. Une victoire contre la Chine, même si elle ne leur offrirait pas officiellement un billet pour la Coupe du Monde, les enverrait pratiquement en Russie. Dans l'autre poule, c'est l'Arabie Saoudite qui est en tête au moment de recevoir l'Irak, mais elle est à égalité avec le Japon qui accueille la modeste Thaïlande, lanterne rouge. On rappelle, Idrissa, que les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour le Mondial 2018. Les deux troisièmes disputeront un mini-barrage dont le vainqueur participera à un barrage continental.
En Europe, on joue aussi un amical ce mardi.
Duel de gala entre la France et l'Espagne, c'est la principale attraction de ces matchs amicaux disputés aujourd'hui, tandis que la sélection des Pays-Bas en pleine crise reçoit l'Italie à Amsterdam. Le sélectionneur Danny Blind vient d'être limogé après une défaite des Oranges face à la Bulgarie 2-0, ce qui fragilise grandement les chances de qualification des Pays-Bas pour le Mondial 2018. De ce côté, la Suède sera opposée aux champions d'Europe portugais, les Suédois qui, vous le savez, sont sans Zlatan Ibrahimovic, qui a pris sa retraite internationale.
Très cher Cristiano Ronaldo.
L'attaquant vedette du Real Madrid a été le footballeur le mieux payé la saison dernière avec 87,5 millions d'euros de revenus devant son grand rival, l'Argentin Lionel Messi, 76,5 millions d'euros. Ce sont des chiffres de l'hebdomadaire France Football qui paraît ce mardi. Le Brésilien Neymar, coéquipier de Messi au Barça, est sur la troisième marche du podium avec 55,5 millions d'euros. Les chiffres de France Football prennent en compte les salaires bruts, les primes et les revenus publicitaires accumulés sur la saison 2016-2017. Chez les entraîneurs, c'est le coach de Manchester United, José Mourinho, qui est le mieux payé avec 28 millions d'euros de revenus. Ça laisse rêveur. Allez Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Orlando et Toronto 112-131. Detroit et New York Knicks 95-109. Cleveland et San Antonio 74-103, et Oklahoma City et Dallas, 92-91.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur l'échec des discussions entre acteurs politiques congolais autour de l'accord sur la gestion consensuel de la transition signé le 31 décembre dernier à Kinshasa. Diverses réactions ont été enregistrées la nuit dernière après l'annonce par les évêques catholiques de la fin de leurs bons offices suite au manque de bonne volonté des délégués au pourparlers. Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après le constat d'échec prononcé par la CENCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, les réactions étaient diverses dans la classe politique au terme de la tant attendue plénière du 27 mars 2017. Pour Félix Tshisekedi, le président du Rassemblement, la majorité présidentielle est la seule responsable de l'échec de ces discussions politiques.
C'est du gâchis, c'est dommage pour le peuple, oui. Qui attendait sûrement beaucoup plus de la part de la majorité présidentielle, parce que c'est elle qui est responsable de l'échec. Il y a un accord qui a été signé le 31 décembre, et si vous regardez cet accord, il n'y a aucun endroit où il parle de trois noms et tout le reste. Donc vous comprenez bien que tout était fait pour tuer l'accord à travers les arrangements particuliers que nous avons faits. Donc il n'y a pas de tort partagé, il y a un coupable, c'est le camp du président Kabila, voilà.
Dans le camp du président Kabila, on garde espoir malgré ce constat d'échec. Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle appelle désormais les institutions de la République à s'assumer afin d'aller aux élections.
Il faut toujours espérer. On n'a pas atteint l'objectif. L'essentiel, c'est qu'il y a eu quelques points importants qui ont été adoptés. Les institutions de la République doivent s'assumer avec toute la population afin que nous atteignions notre objectif à tous. Et par rapport à cet objectif, il y a eu consensus, à savoir organiser les élections. L'accord a été signé le 31 décembre. Mais l'arrangement particulier, nous ne l'avons pas signé, hélas.
De son côté, Vital Kamerhe en appelle à l'implication du président Kabila afin, selon lui, de relancer le processus.
Je constate tout simplement que nous sommes incapables d'un sursaut patriotique de dernière minute. Alors je me demande finalement ce qui divise les gens. Et moi, j'avais déjà dit depuis la semaine passée qu'il fallait l'implication personnelle déjà du président de la République. On ne pouvait pas continuer à tourner en rond. Une question de désignation de premier ministre par les rassemblements depuis le 31 décembre. Décembre 2016, trois mois, on est incapable de le faire, mon Dieu. Donc le pouvoir est donné au Rassemblement. Mais le Rassemblement ne l'assume pas. Nous, l'opposition, est-ce que nous sommes maudits et nous jouons le jeu de la majorité sans le savoir. Nous devons, au niveau de l'opposition, nous mettre d'accord que l'objectif premier pour nous et primordial, c'est d'aller aux élections. La colère du peuple, elle est lente, mais quand il va se manifester, personne ne sera épargné. Donc le président doit prendre ses responsabilités le plus rapidement possible, fixer l'opinion.
Quoiqu'ayant annoncé officiellement la fin de leur mission des bons offices, les évêques catholiques gardent espoir que les discussions politiques pourraient se relancer dans les tout prochains jours. L'abbé Donatien Cholet est le porte-parole de la Conférence épiscopale du Congo.
La CENCO n'entend pas mener indéfiniment ses bons offices. Les évêques sont trop pris dans leur diocèse. L'essentiel a été fait. Beaucoup de choses ont été obtenues. Il reste deux points de divergence majeurs. Et pour ces deux points, la CENCO a donné ses propositions. Mieux que ça, elle ne sait pas faire. Donc les évêques n'ont pas des armes, ils n'ont pas de fouet, ils ont la parole. Mais nous pensons que tout n'est pas perdu. Demain après demain, peut-être ils vont se souvenir de ce que les évêques ont dit, ils vont l'exécuter, on irait de l'avant.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba doit lancer aujourd'hui un dialogue politique pour sortir de l'impasse, politique provoquée par sa réélection contestée il y a 6 mois. Mais la coalition pour la nouvelle république de Jinping refuse d'y prendre part. Blanche Sanou a joint l'activiste Marc Ona, président de l'ONG Brain Forest.
On refuse de participer au dialogue politique parce que c'est une occasion tout simplement de légitimer un pouvoir qui s'est imposé par la force. Parce que les appels au dialogue, nous les avons lancés depuis des années. Nous avons tout simplement souhaité qu'avant les présidentielles, qu'il y ait un dialogue inclusif. Nous avons fait le tour du monde, nous avons fait le tour des institutions. On est même allé aux États-Unis, en France, pour que nos partenaires internationaux viennent convaincre les tenants du pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire Ali Bongo et ses faucons, pour qu'ils organisent un dialogue inclusif qui regroupe tous les acteurs politiques afin d'éviter ce qui s'est passé le 27 août. Mais Ali Bongo a dit non. Mais c'est après avoir opéré son coup de force électoral qu'il tend la main. Or, quand on essaye de regarder l'histoire politique du Gabon, son père a opéré de la même façon. C'est-à-dire, on va aux élections, les Gabonais votent contre le système, votent contre lui, ils passent en force, ils mettent le militaire dans la rue, on tue, et puis on dit, voilà, on va s'asseoir pour négocier.
Alors, comment voyez-vous l'issue à cette tension au niveau de la scène politique au Gabon?
Il faut que les Gabonais résistent, les Gabonais sont en train de résister. Le pays est complètement ingouvernable, je crois que c'est l'issue. Quand ils auront compris qu'ils ne peuvent plus gouverner, en ce moment-là, il y aura un vrai dialogue.
Marc Ona, joint à Libreville. À présent, la réaction du professeur Flavien Enokwe, conseiller du président Ali Bongo.
Il y a deux principaux objectifs. Il y a un objectif immédiat qui est de consolider l'apaisement et la décrispation donc, du climat politique. Et il y a un objectif plus structurel qui est celui à moyen et à long terme de parvenir à une révision fondamentale, à une réforme des institutions.
L'absence de l'opposition va-t-elle avoir un impact sur le dialogue?
Je ne pense pas. On eût aimé que tout le monde fût là, mais comme vous savez, les agendas politiques des uns et des autres ne sont pas forcément de nature à permettre cela. Mais le caractère inclusif du dialogue, il est assuré dès lors qu'il y a une participation massive de la société civile à la phase citoyenne. Aujourd'hui, on annonce 1200 organisations de la société civile et à la phase politique, il y a la majorité des partis politiques qui constituent le paysage politique gabonais. Aujourd'hui, il n'y a que quelques personnalités qui sont restées à marge de cela.
Le professeur Flavien Enokwe, conseiller du président Ali Bongo Ondimba. Au Mali, les travaux de la conférence d'entente ont débuté hier à Bamako. Pendant une semaine, les Maliens vont parler paix, réconciliation et unité nationale. Les débats en atelier seront axés sur les causes profondes de la crise. La CEMA et l'opposition malienne ne participent pas aux travaux. Mais pour le président malien, et je cite, « ils prendront le train en marche ». De Bamako, le compte rendu de Kassim Traoré.
Après les salutations et le mot de bienvenue du maire de la commune 5, c'est le président du comité préparatoire de la rencontre d'entente qui a planté le décor, professeur Baba Akib Aïdara.
La conférence d'entente nationale n'est le monopole de personne, ni l'exclusivité d'une composante nationale particulière. Elle concerne toute notre nation, toutes nos sensibilités réunies et toutes nos attentes rassemblées. Elle n'est dirigée contre aucune personne, contre aucun groupe, encore moins contre une légitimité constitutionnelle.
La CEMA, signataire de l'accord d'Alger, a boudé cette rencontre, tout comme l'opposition malienne. Il ne souhaite pas prendre part à une rencontre sans connaître les termes de référence. Ibrahim Boubacar Keïta, lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence.
Je rappelle que cette conférence d'entente nationale est un train qui démarre. Et ceux qui ne l'auront pas pris dans cette gare-ci peuvent toujours le rattraper à une autre gare. L'essentiel est qu'à l'arrivée, toute la famille soit réunie. Et la dernière gare, le terminus de ce voyage, porte le nom Entente Nationale.
On peut dire que l'absence de la CEMA et de l'opposition a poussé les organisateurs à changer le fusil d'épaule. Professeur Baba Akib Aïdara, président du comité préparatoire.
Suite à une entente entre les parties signataires, il a été convenu que la conférence n'approuvera pas une charte définitive. La conférence produira des éléments, des recommandations, des observations qui seront éventuellement éléments constitutifs d'une charte qui sera élaborée dans un cadre que les autorités fixeront.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta ne voit aucun inconvénient dans ces changements de procédure pour la bonne marche de la conférence.
Une fois que j'aurai reçu les recommandations de la conférence, ainsi qu'il m'a été demandé par le président de la conférence internationale, je déciderai du cadre, des modalités et de l'agenda de son élaboration définitive ainsi que de son appropriation par l'ensemble des composants de la nation. Nous ne sommes dans aucune malice. Nous voulons un Mali uni. Nous voulons un Mali sur des bases solides. Rien ne nous effraie. Aucun débat ne nous effraie.
En tout cas, les participants sont optimistes quant à la bonne tenue de la conférence d'entente nationale.
Le Mali ne peut pas être stabilisé tant que les fils et les filles du Mali ne se sont pas mis ensemble pour se parler. C'est dire d'abord la vérité. Une fois qu'on a fini de se parler, qu'on a fini de se dire la vérité, que ceux qui ont fait du tort au Mali, qui ont pris les armes contre le Mali, qu'ils reconnaissent que ce qu'ils ont fait n'était pas bien et qu'ils présentent des excuses.
La conférence nationale va nous diriger vers la paix, Inch'Allah. Les gens qui ont boycotté, après eux, la conférence n'a pas été bien organisée. Je ne pense pas que ça va jouer ou bien ça va déranger. La conférence va bien se passer, Inch'Allah, et on aura de bons résultats. Je suis sûre et certaine. Parce qu'aujourd'hui, là, on est, tout le monde a besoin de la paix. Même les gens qui ont boycotté, tout le monde a besoin de la paix.
Il faut signaler que plusieurs délégations sont venues de l'intérieur du pays pour prendre part à cette rencontre qui durera 7 jours. Les travaux vont porter sur la paix, la réconciliation et l'unité nationale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Les organisations caritatives intervenant au Soudan du Sud sont sous le choc après le meurtre de 6 travailleurs humanitaires froidement abattus samedi. Reportage de Jill Craig, repris ici par Lionel Gahima.
Il s'agit de la plus grave attaque contre le personnel humanitaire au Soudan du Sud depuis le début, en décembre 2013, du conflit dans ce pays. Les 6 victimes qui travaillent pour l'ONG locale Gredo ont été probablement attaquées par des voleurs, estime Jerry Ferrer, représentant du secours catholique. Les agents des ONG circulent à bord de véhicules Land Cruiser, ont très souvent des téléphones satellitaires Thuraya et transportent souvent de l'argent pour payer les fournisseurs et les travailleurs locaux et sont pris pour cible. Pour Ken Isaacs, un responsable de l'ONG américaine Samaritan's Purse, il est prématuré de tirer des conclusions car selon lui, les choses sont rarement aussi simples qu'elles n'ont l'apparence. 15 employés de cette ONG ont été enlevés en mars avant d'être remis en liberté. Le gouvernement sud-soudanais a imputé le meurtre de 6 humanitaires aux rebelles de l'ancien vice-président Riek Machar. L'attaque a eu lieu dans une zone sous le contrôle du gouvernement et ses alliés, a retorqué un porte-parole rebelle. Quoi qu'il en soit, cette attaque amènera les travailleurs humanitaires à être beaucoup plus en alerte, a dit Ken Isaacs de Samaritan's Purse. Cela ne nous poussera pas à hésiter. Cela affirmera notre détermination, mais nous rendra aussi plus prudents. Nous mettrons donc certaines mesures en place pour nos déplacements, le nombre de véhicules dans nos convois, et cela affectera nos mouvements dans l'ensemble du pays. L'attaque de samedi n'empêchera pas le Comité international de la Croix-Rouge de continuer à distribuer l'aide humanitaire, a fait savoir Jason Strazioso, porte-parole du CICR. Cet incident extrêmement tragique est en tête de nos préoccupations et accentue les soucis sécuritaires du Soudan du Sud. Mais dans le même temps, étant donné que nous acheminons le personnel et l'aide essentiellement par voie aérienne, cela n'affectera probablement pas nos opérations. La commission conjointe de surveillance et d'évaluation du Soudan du Sud a demandé aux observateurs du précaire cessez-le-feu de 2015 d'enquêter sur l'attaque de samedi. Selon l'ONU, au moins 79 travailleurs humanitaires ont été tués dans le pays depuis décembre 2013, dont 12 cette année.
Salut à tous, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire que le magazine au féminin a fini son temps et qu'il passe le relais à une nouvelle édition toute fraîche, Le Monde au féminin. Dorénavant, diffusé le mardi et le samedi à 19h. Ne manquez pas ce programme interactif, dynamique et plus riche en rubriques. Le Monde au féminin aborde aussi des questions qui préoccupent la jeunesse. Alors soyez tous au rendez-vous le mardi et le samedi à 19h sur VOA Afrique.
d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.